Accent d'Europe, Catherine Roland.
It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door.
Bonjour à tous, un air de circonstance à quelques jours des fêtes de fin d'année. Une bonne nouvelle pour les Ukrainiens qui vont pouvoir fêter Noël deux fois s'ils le veulent. Le 7 janvier, comme le veut le calendrier orthodoxe, mais aussi le 25 décembre. C'est ce que vient de voter le Parlement à Kiev. La décision est en fait très politique. Elle vise à rapprocher le pays de l'Union européenne, comme la libéralisation du régime des visas à Schengen, l'européanisation des normes de production ou encore les nouvelles lignes de train vers les capitales européennes. Sébastien Gobert.
Par un simple vote au Parlement, l'Ukraine a désormais deux Noël. Le 7 janvier reste le jour de Noël selon le calendrier julien utilisé par les orthodoxes et s'y ajoute le 25 décembre, la date retenue par le calendrier grégorien utilisé par les catholiques et les protestants. Ce choix est avant tout symbolique puisque ces confessions représentent au maximum 3% des communautés religieuses d'Ukraine. La majorité des chrétiens du pays orthodoxe continuera à célébrer Noël le 7 janvier. Il n'empêche qu'en prenant cette décision, le Parlement a tranché un très ancien débat qui a trait au positionnement de l'Ukraine face à la sphère culturelle européenne. Et donc, évidemment, vis-à-vis de la sphère culturelle russe. Il s'agit pour les députés de rompre encore un peu plus avec les traditions héritées du passé tsariste, mais aussi soviétique. Pour équilibrer l'apparition d'un nouveau jour férié le 25 décembre, le Parlement a ainsi supprimé le 2 mai, qui faisait jusque-là un pont avec le 1er mai, la fête internationale des travailleurs. La première semaine de mai était généralement une semaine morte en Ukraine à cause des fêtes nationales héritées de l'ère soviétique. Cela pourrait changer dès 2018. Le pays compte désormais 11 jours fériés, exactement comme la France, moins que la Pologne voisine cependant ou que l'Espagne qui détient le record européen avec 14 jours fériés. Mais l'important pour les autorités ukrainiennes, ce n'est pas le nombre de fêtes à célébrer, mais bien que ce soit des fêtes européennes.
En 2017, les Albanais seront les plus nombreux à demander l'asile en France. Une situation intenable, prétend le gouvernement français. Alors depuis hier soir, le ministre de l'Intérieur est donc à Tirana. Gérard Collomb veut dissuader les ressortissants du pays le plus pauvre d'Europe à venir dans l'Hexagone. Et ce ne sont pas les seuls d'ailleurs à tenter leur chance chez nous. Faute de perspectives d'avenir, d'autres Albanais des Balkans, ceux du Kosovo, sont eux aussi attirés par les pays les plus riches de l'Europe de l'Ouest. Le reportage sur place à Pristina, Simon Rico.
Avec ses rues sans cesse embouteillées et ses trottoirs bondés, Pristina, la capitale du Kosovo, donne l'impression d'un pays en plein boom démographique. 70% de la population a moins de 35 ans, mais avec un chômage qui touche plus de la moitié des jeunes, la seule perspective d'avenir, c'est de partir. Après avoir tenté sa chance une première fois en Allemagne, Yetan Hassani a quitté sa femme et son tout jeune fils en 2010 pour venir en France, en espérant pouvoir les faire venir.
J'ai choisi de partir en France parce que je pouvais y faire une demande d'asile. Or, ce n'est pas le cas dans d'autres pays européens comme l'Allemagne. Je savais que j'aurais 18 mois d'attente pour avoir une réponse sur le droit d'asile et donc de pouvoir rester en France. Et je croyais avoir de bonnes chances.
Au bout de 5 ans de procédure, Yetan Hassani a fini par être définitivement débouté et expulsé. La France considère en effet le Kosovo comme un pays sûr et n'accorde que très rarement l'asile à ses ressortissants. À l'hiver 2015, pas moins de 100 000 Kosovars, plus de 5% de la population, ont quitté le pays en à peine quelques mois, un exode inédit en temps de paix. C'est le moment qu'a choisi Azem Recepi, la vingtaine, pour partir à Annecy avec sa compagne. Avant son expulsion, il gagnait sa vie en bossant au noir dans les chantiers du coin.
Comme on est musulman, par exemple, nous on allait à la mosquée 5 fois par jour, à la mosquée turque. J'avais demandé à une personne s'il peut me trouver le boulot et puis j'ai trouvé comme ça. En France, j'avais gagné 1 000, 1 200 le maximum par mois. Bon, ici, je travaille comme une peintre en bâtiment. Ouais. Maintenant, comme j'ai mon entreprise, je gagne 300, 400 par mois.
Tous n'ont pas la chance d'Azem quand ils sont renvoyés au Kosovo. Depuis 2 ans, le gouvernement a mis en place un programme censé favoriser la réinsertion de ceux qui ont tout vendu pour tenter leur chance dans les pays riches de l'Europe. Mais les fonds alloués sont trop faibles, surtout pour les familles les plus démunies comme celle d'Aki Sinani. Ce quadragénaire fatigué est revenu sans un sou dans sa ville natale de Chtim, à une 15aine de kilomètres au sud de Pristina, avec sa femme et ses 2 adolescents.
On est allé voir les services sociaux de l'État comme on nous l'avait recommandé, mais là-bas, personne n'a rien pu faire pour nous aider. Quant à la mairie, elle nous a bien trouvé un logement pour les 2 périodes légales de 6 mois, mais dans 20 jours, ce sera fini. On n'a plus aucun endroit où aller. Aujourd'hui, on n'a plus aucun espoir. Même la mairie, elle ne peut plus rien pour nous.
Ces derniers mois, le gouvernement kosovar a réduit les budgets pour la réintégration de ses ressortissants. Ceux-là même qui ont été expulsés à cause des accords de réadmission signés avec les États membres de l'Union européenne en 2010. Un arrangement qui devait favoriser le processus d'intégration du Kosovo. Confrontés à de nombreux cas désespérés, les communes demandent d'augmenter les fonds et de décentraliser le système d'aide. Des requêtes balayées d'un revers de la main, comme le regrette Ibrahim Demiri, le directeur du service d'aide au retour de la mairie de Chtim.
Les communes n'ont aucun budget pour aider ces gens. Nous avons pourtant la capacité, les ressources humaines pour assurer nous-mêmes la gestion et la coordination de ce problème, de la réinstallation de ceux qui sont renvoyés. Mais malgré nos multiples demandes, le gouvernement n'a jamais voulu nous déléguer cette tâche.
Quand il est revenu de France, Yeton Hassani a bénéficié d'un financement public de 3 000 euros pour ouvrir une pizzeria. Mais au bout d'un an, il a fait faillite. Aujourd'hui, le trentenaire habite dans une petite maison éloignée du centre qu'il a aménagée grâce à l'argent que lui envoie son frère installé en Allemagne. Malgré ses efforts, Yeton ne parvient pas à retrouver un emploi.
Je me suis acheté un chien pour m'occuper pendant mon temps libre. Je n'ai pas de travail, alors j'ai pas mal d'heures à tuer. Je me promène avec lui dans les bois. Ces moments m'apaisent. Ça me fait oublier un peu tout ce qui me manque. Vous savez, la France, elle me manque. J'y ai passé 5 ans. C'est beaucoup. Quand je rentre, ça va un peu mieux, jusqu'à ce que le quotidien me rattrape.
Le gouvernement du Kosovo semble s'accommoder de l'exode massif de ses forces vives. Ces départs réduisent en effet les pressions sur un marché du travail déprimé, ce qui permet d'atténuer les tensions sociales et politiques qui agitent le pays. Quant à ceux qui sont rapatriés, ils pourront toujours compter sur le soutien de la diaspora. Ces 10 dernières années, elle a envoyé plus de 5 milliards d'euros au pays, environ 2 fois le PIB annuel.
Qui êtes-vous ?
Je suis moi.
Lui, c'est moi.
Et je suis vous.
Expliquez-vous, je vous prie.
Et c'est un jeune citoyen pour le rapprochement des communautés qui a été mis à l'honneur cette année en Estonie. Écologiste convaincu, adepte du développement durable, Rasmus Rask s'est surtout distingué en créant l'école ouverte où petits Estoniens et petits russophones peuvent s'asseoir côte à côte et apprendre ensemble. Portrait de ce citoyen atypique avec Marielle Vituro.
Personnalité aux multiples facettes, c'est certainement l'expression qui décrit le mieux Rasmus Rask. Le trentenaire se démène tous azimuts. Il y a 5 ans, il a créé sa propre marque de crème glacée fabriquée à partir de produits locaux. De l'emballage à l'équipement de ses employés, tout est écologique ou recyclé. Et toujours dans cet esprit, il a fondé en 2004 Uskasutuskeskus, des magasins comparables au centre Emmaüs en France. On y trouve de tout, de seconde main, de la vaisselle aux habits en passant par les meubles, et les profits tirés de la vente sont reversés à des associations caritatives. Néanmoins, Rasmus Rask n'est pas devenu citoyen de l'année 2017 pour sa conscience écologique, mais pour sa contribution au développement du système éducatif en Estonie. Se basant sur les recherches de chercheurs finlandais, il a développé un programme pour prévenir le harcèlement à l'école. 20% des écoles du pays participent et le harcèlement recule, mais ce n'est pas tout. En inaugurant son école ouverte à la rentrée 2017, il a réalisé quelque chose d'unique dans le monde de l'éducation en Estonie. Dans cet établissement, les Estoniens et les russophones partagent les mêmes bancs et apprennent ensemble, indifféremment en estonien, en russe ou en anglais. Cette école privée a encore très peu d'élèves pour le moment, mais Rasmus Rask y voit là le futur de son pays. Pour cet entrepreneur social, l'Estonie a désormais suffisamment de maturité pour accorder la citoyenneté à tous ses habitants, et en créant son école ouverte sur le monde, Rasmus Rask veut insuffler cette confiance à tous. Et le titre de citoyen de l'année le confirme dans ses convictions. Come cycling, just try it and you'll see. Come cycling, you'll love it just like me. I love to go with cycling, it's just the best thing out. It's the best way to keep fit, the best to get about.
Comme en Estonie, les températures y chutent parfois à moins 20 degrés en cette période de l'année. Pourtant, à Helsinki, la pratique du vélo, y compris l'hiver, est en hausse constante depuis une dizaine d'années. À côté des pistes cyclables classiques, la mairie a commencé à construire un réseau d'autoroutes à vélo. Et en matière de politique cyclable, la ville qui compte plus de 600 000 habitants n'a pas à rougir des exemples suédois, néerlandais, danois ou encore canadiens. Le reportage de Laurent Berthaud commence par un matin froid à moins 2 degrés.
Une ambiance de fête dès 8h du matin le long d'une des deux autoroutes à vélo du centre d'Helsinki. Le jour se lève à peine et des bénévoles de l'association Pyöräliitto interpellent les cyclistes qui passent pour leur distribuer gratuitement de petites lampes à accrocher sur leur vélo. C'est la troisième année que l'association organise cette distribution pendant une semaine, car encore trop de cyclistes roulent sans lumière quand les jours raccourcissent. Martti Tulenaimo.
En tout, on distribue 4500 lumières pendant cette semaine. Et ce matin, on en distribuait à peu près 150 lumières.
Et en même temps, vous offrez à boire une boisson chaude.
Oui, un matin comme aujourd'hui, il fait assez froid. Il faut donner des bons sentiments aux cyclistes.
Casque de vélo attaché sur un gros bonnet, Vilja enlève ses gants et affiche un grand sourire.
Moi, je pense que c'est une super idée. On a toujours besoin de, c'est quoi, c'est de lumière, surtout ici en Finlande, quand c'est super noir.
Combien de kilomètres par jour?
Vingtaine par jour, tous les jours.
Même l'hiver?
Même l'hiver, oui.
Et comment vous faites quand il y a de la neige, qu'il fait très très froid?
Bon, en l'hiver, je n'ai plus pour l'hiver. Les vêtements, il faut avoir plein de vêtements, bien sûr.
Rouler avec un mètre de neige dans les rues, cela n'a rien d'insurmontable non plus pour Mikko.
Non, ce n'est pas franchement un souci. Il suffit d'adopter la bonne attitude et les bons vêtements, et parfois des pneus à clous. Moi, j'adore pédaler l'hiver, surtout quand il fait froid.
Pas besoin toutefois d'être un vététiste chevronné pour traverser Helsinki l'hiver. Chaque matin et en fin d'après-midi, plusieurs balayeuses déneigent et salent les pistes cyclables qui traversent désormais la ville. À deux pas de la gare centrale, je retrouve Niklas Aalto Setala, en charge de la politique cyclable à la mairie d'Helsinki.
Là, nous sommes au centre-ville d'Helsinki, sur la piste cyclable la plus fréquentée de notre réseau. C'est en fait la première autoroute cyclable aménagée en 2012. Avant, c'était une ancienne voie de chemin de fer qui allait jusqu'à l'un des ports qui a été déplacé dans la partie est d'Helsinki. Donc cette voie devenue inutile a été aménagée pour les vélos et les piétons et c'est un super raccourci pour les cyclistes qui peuvent traverser l'hypercentre sans mettre un pied à terre. S'ils devaient emprunter les petites rues, ce serait beaucoup plus lent.
Rien que sur ce tronçon d'un kilomètre 200, 900 000 cyclistes passent chaque année. Des chiffres précis obtenus grâce à une borne de comptage automatique. Il en existe 13 au total.
Vous voyez, aujourd'hui, 391 cyclistes ont déjà emprunté cette piste. Voilà le 392e qui passe. Et il n'est pas encore 9h du matin. C'est pas mal. Ces chiffres, nous les communiquons aux élus et ces statistiques nous permettent de mesurer concrètement les effets de nos décisions. Par exemple, nous avons constaté qu'en déblayant et en salant cette piste, nous avons désormais plus de gens qui prennent leur vélo l'hiver.
Les cyclistes saluent dans leur majorité les efforts engagés par la mairie, ce que révèlent des études menées ces dernières années. À côté des deux autoroutes à vélo, on dénombre des centaines de kilomètres de pistes cyclables classiques qui constituent un réseau sans coupure, ce dont se réjouit Kai.
À Helsinki, c'est vraiment bien, surtout les grandes pistes pour sortir de la ville. Tu peux parcourir de grandes distances très vite, tu n'as pas à t'arrêter. Les pistes passent au-dessus ou au-dessous des voies où il y a les voitures. Bon, dans les rues en centre-ville, ils pourraient faire un petit effort. Mais globalement, ça s'est vraiment amélioré ces dernières années.
10% des cyclistes réguliers continuent de rouler pendant la saison froide. Et désormais, tout au long de l'année, c'est un déplacement sur 10 qui est effectué à vélo, deux fois plus qu'à Paris. Un succès dû en partie à la mobilisation des usagers, selon Martti Tulenaimo, de l'association des cyclistes finlandais qui regroupe 3000 membres.
On a réussi à montrer aux hommes politiques et femmes politiques en Finlande que faire du vélo, c'est important. Et je pense que la politique de vélo va On est loin en Finlande maintenant qu'on a cette association. Nous, on veut que 15%, 20%, 25% vont se déplacer en vélo.
La ville d'Helsinki, de son côté, a l'ambition de porter son réseau d'autoroutes à vélo à 160 km contre 5 actuellement, avec des pistes plus larges qu'aujourd'hui pour permettre de dépasser sans crainte aux heures de pointe.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Catherine.
Alors Vincent, nous restons dans le Grand Nord avec l'enregistrement en Finlande du dernier album du groupe Lima.
Lima avec deux I, c'est le quatuor formé par le percussionniste finlandais Tatu Ronko et trois membres du groupe danois Efterklang. On avait découvert ce beau projet l'an passé à la faveur d'un premier album que les musiciens avaient composé lors de résidences dans différentes villes européennes. Rebelote aujourd'hui avec leur deuxième disque, écrit et composé à Londres, Berlin et au Portugal, avant d'être enregistré en Finlande. Cette nouvelle collection de chansons s'intitule 1982. Pourquoi ce choix? Eh bien parce que c'est l'année où le Time Magazine choisit comme personnalité de l'année un ordinateur. 1982, c'est aussi la naissance du chanteur de Lima, Kasper Clausen. Autant d'indices sur ce qui a guidé l'écriture des morceaux, une réflexion sur l'identité et les influences du groupe. Je vous propose précisément la chanson qui donne son titre à l'album.
Extrait du dernier album donc des Finno-Danois Lima. Et c'est sur ces notes qu'on se quitte. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine. À la réalisation, il y avait bien sûr Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver sur notre appli Pure Radio ou sur notre page Facebook. Ne zappez pas dans quelques instants les infos.